You may say.
Merci. Voilà, donc ils sont en train de lire leurs cartes, découvrir le cadeau qui leur a été fait. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de participer aussi à la dernière soirée de caté avec Joël Dru et Charlie Favre qui ont accompagné ces trois jeunes. Et Joël et Charlie, je profite maintenant, des fois ça se fait plutôt sur la fin, mais je profite maintenant pour vous remercier pour votre travail, pour qui vous avez été, parce que j'étais vraiment émerveillé de voir le lien, la relation que vous avez eue avec ces trois catéchumènes. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui s'est passé, un lien de confiance qui a été établi. Vous avez pu partager votre cœur, être de bons conseils, mais aussi des oreilles attentives pour eux. Et j'ai trouvé ça magnifique, comme quoi des fois il y a des petits groupes comme ça, mais ça permet aussi d'autres choses. Et puis on a parlé de la suite. C'est vrai que pour l'instant le groupe de Johnson est en pause, mais voilà, évidemment on leur a posé la question et ils ont des projets de groupe de jeunes qui sont bien réels. Et puis voilà, on leur souhaite en tout cas bon vent pour leur suite dans leur foi. Donc aujourd'hui c'est beau parce qu'on a entendu vos projets, donc de missionnaires, d'ébénistes ou de menuisiers, de musiciens qui a le monopole. Voilà, vous avez tous des projets. J'ai trouvé ça une belle approche de se projeter comme ça dans les 20 ans plus tard. Et puis aujourd'hui nous abordons ce thème des projets parce que on est toujours dans ce culcadé, ce thème où nous abordons la question du rêve, de la réalité et de la foi. Et pour que vos rêves, Alexandre, Bastien et Jonathan, se réalisent, il faudra les transformer en projets. Et c'est parfois ça qui est plus difficile, c'est transformer nos rêves en projets. Alors ça peut être des projets de vie pour vous, des projets professionnels, des projets de famille, ça peut être des projets de communautaire aussi, des projets d'église, pour que les rêves, les nôtres et ceux de Dieu se transforment et arrivent dans notre réalité, on a cette nécessité de les transformer en projets, et souvent c'est là que c'est plus difficile. Alors j'ai choisi un texte aujourd'hui, j'ai une pendule qui fonctionne pas en face de moi, ça c'est très mauvais pour vous, vous comprenez. Je crois que je vais quand même chercher mon iPhone pour avoir l'heure, parce que autrement, vu que le temps a déjà pas mal filé, je vais essayer d'être un peu plus court que prévu. Voilà. Je vais mettre ça ici. Comme ça rassure tout le monde, vous voyez. J'ai choisi un texte biblique qui a quelques points de contact avec votre réalité, à vous, Jonathan, Bastien et Alex. Parce que ce texte nous parle d'un peuple qui passait d'une réalité pour aller vers une autre. Un passage, de nouveau, un entre-deux. Et vous aussi, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se termine, le caté. Alors là, vous êtes tellement triste parce que vos responsables étaient tellement bien. Voilà. Et puis, vous allez vers autre chose. Alors certains ont déjà été au groupe de jeunes du Mont, par exemple, comme Alex, Jonathan aussi un petit peu. Voilà, vous avez des idées sur ce qui va suivre, mais quand même, vous allez vers un petit peu d'inconnu. Vous allez quitter, en tout cas pour la plupart d'entre vous, mais de toute façon ça va vous arriver à tous, l'école, et là aussi c'est avec grand regret que vous allez quitter l'école pour vous rendre dans une autre destinée, votre apprentissage ou bien votre gymnase. Vous quittez ce que vous connaissez, voilà, et vous allez dans un endroit, dans un paysage où il y a des choses qui sont plus ou moins connues, vous en avez entendu parler par les copains, par la famille, mais en même temps vous allez découvrir ce qui va vous arriver. Et puis il y a aussi un passage que vous faites, qui est celui de votre âge, qui est quitter l'enfance pour aller vers le monde passionnant de l'adulte. Et puis ça s'appelle l'adolescence, voilà, vous savez bien ça. Moi, j'aimais pas qu'on m'appelait adolescent quand j'avais votre âge, mais bon, bref, ma foi, c'est comme ça. Donc, vous quittez l'enfant que vous voulez plus trop être, quoique des fois il y a quelques avantages quand même à rester un peu enfant. Et puis vous allez vers ce monde des adultes qui vous attire ou vous motive plus ou moins. Et parfois, nous sommes en tension, en tout cas nous étions en tension, et vous l'êtes peut-être, entre l'enfant que vous voulez plus être et l'adulte que vous redoutez être, qui vous motive peut-être pas complètement. Et ça s'appelle cette adolescence tiraillée entre ces deux réalités et vers l'inconnu de la vie adulte. Qu'est-ce qui va se passer plus tard ? Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Vous avez quelques idées, vous avez des rêves. Comment est-ce qu'ils vont se réaliser? Est-ce qu'ils vont se réaliser? Donc, vous êtes en train de quitter le monde des parents qui vous oppresse. Alors là, je vais faire des analogies un peu à 5 francs, voyez. Faudra être indulgent avec moi. Qui vous oppresse tel le pharaon qui oppressait le peuple hébreu. C'est un peu limite, hein. Mais attendez, ce n'est que le début, voyez. Voyez, les parents, ils vous astreignent à des tâches ingrates et difficiles. Par exemple, sous les coups de fouet, vous devez même ranger votre chambre. C'est vrai ça? Vous devez ranger votre chambre? Oui, il semblerait que oui. Tels que des esclaves, vous devez certainement parfois passer l'aspirateur. Ça vous arrive? Ah, et Jonathan, il passe pas l'aspirateur. Ils sont où ses parents là? C'est pas possible. Tel le pharaon, il vous oblige à faire vos leçons. Ça, ils obligent? Ouais, ça, ils sont obligés de faire leurs leçons. Ça, c'est embêtant, quoi. Des fois, ils vous privent même du nécessaire. Vous pouvez faire que 2 heures d'ordinateur par jour, par exemple. Vous voyez? Parfois même, c'est pire que tout, vous devez partir en vacances avec vos parents. Ça, c'est pas facile. Vous devez faire tous les châteaux de la Loire, bronzer alors que vous aimez pas ça. Aïe, 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 c'est atroce. Bref, vous êtes complètement opprimés, ça a l'air difficile. D'ailleurs, je le vois sur vos visages. Mais Dieu a vu votre souffrance. Et ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Et non loin d'ici, vous le savez pas encore, mais je vais vous le dire, dans un désert, à quelques kilomètres et quelques années, se trouve un berger devant un buisson en feu. Et de ce buisson sort une voix, celle du Seigneur, qui lui dit ceci. Vous voyez un peu le glissement vers le texte, très subtil. Alors vous trouvez ça dans l'Exode chapitre 3. J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leurs souffrances, dit donc l'Éternel à Moïse. Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire d'Égypte vers un beau et vaste pays, vers un pays où regorge le lait, le miel. Ça, c'est le projet futur qui vous attend. Mais où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périsites, les Évites et les Jébusites? Voilà, y a quelques habitants. On y reviendra. Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, que j'ai même vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment, je t'envoie maintenant vers le Pharaon, va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Voilà, on arrive dans ce texte que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, bien sûr. Ce peuple qui est opprimé est un Dieu qui entend cette souffrance et qui dit « Mais devant vous, il y a un bon pays que je vous promets. » Et je crois qu'à chacun d'entre nous, Dieu promet ce pays. Et nous l'avons vu, ce pays se réalisera complètement une fois que, et on l'a entendu de la part de Claude, dans la bouche de Claude, quand on sera proche de Jésus. Ne faisons pas trop d'illusions. Mais malgré tout, et bien heureusement, Dieu nous promet aussi des bonnes choses et vous promet des bonnes choses qui sont devant. Donc ne redoutez pas trop de devenir des futurs adultes. Il y a des bonnes choses qui vous attendent. Croyez-en l'Éternel. Mais avec ces bonnes choses, quelques petites difficultés aussi. Et c'est ça parfois la difficulté. Bon, petite parenthèse, j'espère que les parents de ces 3 jeunes hommes n'auront pas besoin de subir les plaies d'Égypte pour les laisser partir et s'envoler du nid, voyez. Parce que parfois, malgré tout, en tant que parents, on est quand même en difficulté, on doit être mis en crise pour pouvoir réellement libérer notre peuple, consentir à laisser s'envoler, c'est pas si simple. Et parfois, en tant que parents, avec toute une armée, on essaie de leur courir après, voyez, essayer de les rattraper, mais non, ils nous échappent, ces enfants, et ces 3 jeunes hommes vont bien échapper, en tout cas, à un bout de leurs parents. Bref. Donc je vous propose de revenir au texte original et de lire dans la Bible le texte dans Nombre 13. Alors, je cherche. Hop. Voilà, on va lire quelques versets dans le texte biblique. Donc il s'est passé pas mal de choses depuis le moment du buisson. Le peuple d'Israël est là aux portes de ce pays magnifique, pays de promesses. Et vous êtes là aux portes de ce pays magnifique. Et vous allez voir ce qui va se passer et comment est-ce qu'on réagit parfois quand on est tout près de la bénédiction que l'Éternel nous a promis. On va lire les versets à partir du verset 25, le chapitre 13, pour ceux qui veulent suivre dans les Bibles. Donc voilà, ce qui se passe, juste un petit point de situation. Moïse envoie une personne par tribu comme explorateur pour un peu voir et faire son plan, établir son plan stratégique. Et puis avoir une vue du pays pour ensuite s'en emparer. Alors aujourd'hui, je vais pas traiter, et là je m'en sors parce que autrement ça serait difficile, la question éthique que tout ça pose. Je vais prendre ça de manière métaphorique, alors c'est bien facile, mais n'empêche, ça pose quand même des graves questions au niveau éthique et théologique, que je laisserai à votre pasteur, qui lui, quand même, mon cerveau, pour ce genre de questions, répondre à toutes les questions éthiques que ce texte peut soulever. Nous allons le prendre que simplement de manière imagée. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il figure dans la Bible, mais voilà, les autres questions, je vous laisserai le soin de vous plonger là-dedans durant l'étude biblique. Donc, nous lisons à partir du verset 25. « Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport aussi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyé. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak, les Amalécites, habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Alors on lira la suite tout à l'heure, je vous propose une petite lecture commentée assez rapide de ce texte et puis essayer d'en tirer des enseignements pour vous trois et pour évidemment nous tous. Alors ce que nous remarquons, c'est que voilà, ils sont aux portes de ce pays. Il y a des espions qui arrivent, il y a un rapport qui se fait. Il montre les fruits qui étaient d'ailleurs magnifiques, portés sur un brancard tellement les grappes de raisins étaient grandes, tellement il y avait de l'abondance. Donc il montre les fruits des signes tangibles que l'avenir est quelque chose qui est bon, qu'il y a vraiment des promesses de l'Éternel qui se réalisent. En effet, c'est comme l'Éternel avait dit, le pays est un bon pays où coule le lait et le miel, où il y a de l'abondance. Mais comme l'Éternel l'avait promis aussi, parce qu'il promet pas que des bonnes choses, en tout cas en apparence, il promet aussi quelques petites encoupes, voyez, ce pays est habité par des personnes qui impressionnent le peuple d'Israël, il y aurait même des géants, dit-on, on le verra plus tard. Et il y a une parole magnifique en fait de Caleb que j'aimerais vous donner à vous trois particulièrement, qui devant à la fois l'abondance de ce pays, à la fois devant aussi les difficultés pour atteindre ce que l'Éternel a promis, donne cette parole qui est forte et dit « Allons-y, nous nous emparerons de ce pays, nous en sommes capables. » Et c'est vrai qu'on dirait que parfois les bonnes choses que Dieu nous promet ou la liberté à laquelle on aspire coûte et parsemée de quelques embûches dans notre existence. Comme disait Claude, par exemple, par rapport à son rêve professionnel, ça n'a pas été facile. Il a fallu travailler, il a fallu franchir quelques étapes. Et pour que le projet de Dieu se réalise, mais que nos projets puissent se réaliser en relation avec celui de Dieu, nous pouvons nous emparer, faire nôtre cette parole qui sort de la bouche de Caleb et qui dit « Allons-y, emparons-nous de ce pays, nous en sommes capables. » Et il y a d'abord ce « Allons-y ». J'aimerais vous dire, mais allez-y les gars, vous avez votre vie d'adulte devant vous, allez-y, allez dans vos projets, bougez-vous, voyez ? Ou même nous, dans nos projets, on a des projets devant nous, mais à un certain moment, il faut y aller. Il faut se motiver et se bouger et faire ce prochain pas pour aller dans cette direction-là. Pas simplement être là aux portes des promesses de l'Éternel, aux portes de nos projets de vie ou professionnels ou autres, ou de foi, comme on l'a entendu, mais faire vraiment ce pas, allons-y. Et parfois, c'est vrai que on verra plus tard que suivant ce qu'on regarde, ça va déterminer notre manière de nous emparer de ces promesses. Donc d'abord, cette parole, vas-y, lance-toi dans la vie. Première injonction. Deuxième chose qui ressort de ces paroles de Caleb, c'est le fait de s'emparer. Emparons-nous de ce pays. Quand j'étais petit, c'était ma maman qui me donnait le biberon. Ensuite, j'ai grandi un petit peu et c'est moi qui ai dû m'emparer, voyez, de cette nourriture. Et j'étais plus dans le cocon familial, j'ai dû sortir et m'emparer de ma propre vie, de mon existence, de mon projet de vie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire à vous trois, allez-y, emparez-vous. Emparez-vous de ce que Dieu vous promet. Emparez-vous des promesses qui sont dans cette parole de Dieu. Elles vont pas simplement vous être données au biberon, mais vous devez vous en emparer. Et ça, je pense que c'est assez important parce que parfois, on est comme passif à attendre que les choses viennent de la part de l'Éternel. Il y a cette promesse de Dieu, mais moi, je dois y aller et m'en emparer. Et là, on voit que ça pousse à l'action. Et ensuite, il y a ce troisième mot qui dit « nous en sommes capables ». C'est tellement important que vous trois et nous autres, nous ayons ce sentiment de capacité, de dire « je suis capable d'aller, de m'emparer de ce pays, de progresser dans ma vie, dans tous ces domaines, je désire me mettre en mouvement ». Donc voilà, que ce sentiment de capacité aussi, ce sentiment qui est profond, puisse grandir dans vos vies. Vos projets, vous les avez dit tout à l'heure. En tout cas, vous en avez dit certains, il y en a encore d'autres. Vous en êtes capables et Dieu a des promesses pour vous et un bon pays à vous donner. Bon, mais tout n'en reste pas là, voilà, on va continuer notre petite lecture, cette fois-ci je vais lire, je crois que j'ai marqué le texte biblique directement sur mes notes, ça sera plus simple. Donc on continue avec le verset 31, voyez, devant tout ça, devant cette injonction de Caleb, comment va réagir le peuple qui était déjà en train de murmurer ? Mais les compagnons de Caleb, donc les autres espions, déclarèrent « Nous ne pouvons pas attaquer ces gens, ils sont bien plus forts que nous. » La peur est en train de gagner du terrain dans leur cœur. Et ils commencèrent à dénigrer. Vous voyez, c'est tout un processus. Dénigrer devant les Israélites, le peuple qu'ils avaient exploré. Ils disaient, le pays que nous avons exploré est un pays qui fait mourir ceux qui y viennent et y habiter. Les gens que nous y avons vus sont tous de grande taille. Nous avons même vu des géants, les descendants d'Anak. Par rapport à eux, nous nous sentions comme des fourmis et c'est bien l'impression qu'ils devaient avoir de nous. Non seulement il y a des impressions qui s'apparent d'eux, mais ils commencent à prêter carrément des intentions, des impressions aux autres. Alors vous connaissez bien ce texte, on l'a déjà partagé ici. Ce que je trouve intéressant à ce moment-là, ce qui me parle à moi, c'est que ce que nous choisissons de regarder dans le pays que l'Éternel nous promet ou dans l'avenir va conditionner ma manière de me représenter ce pays et va conditionner mon action. Caleb, lui, voit les géants. Il voit les difficultés. Il n'est pas en train de les nier. Parce que, voilà. Mais il voit aussi les bonnes choses et l'abondance de ce pays. Et surtout, il se rappelle de cette promesse de l'Éternel qui lui donnera ce pays. Et les autres oublient la promesse comme rongés ou habités par la peur, qui en fait les mettent dans ce qu'on appelle l'inhibition de l'action. Ils sont plus capables d'agir ou de réagir. Et ils commencent à transformer leur regard. Ils oublient les promesses de l'Éternel et les géants commencent à devenir tellement grands qu'ils veulent retourner pour finir en Égypte. face aux difficultés que vous allez rencontrer, parce que vous allez en rencontrer, il y a des belles choses qui vous attendent, mais il y aura quelques difficultés pour vous en emparer, vous avez le choix d'écouter cette peur. Et je pense que c'est un choix qu'il faut faire, accueillir la peur qui m'habite, parce qu'elle me dit quelque chose. La peur, c'est une émotion qui est importante à entendre. Ah, derrière la peur vient un besoin, celle de sécurité, celle d'être rassuré. Donc je peux pas simplement faire comme si elle n'existait pas. La peur est là. Mais où est-ce que je vais trouver ma sécurité quand j'écoute ma peur et quand le peuple d'Israël écoute leur peur? Certains laissent grandir cette peur et d'autres, comme Caleb, disent « Ok, il y a des géants, il y a ça, mais je veux aller chercher ma sécurité, mon courage dans la promesse de l'Éternel et dans le fait que Dieu m'a promis ce pays et m'a promis d'être là. » Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est un peu la question, vous savez, du verre à moitié plein, à moitié vide, que des fois on dit à nos enfants et puis ça les agace un petit peu. Mais n'empêche que il y a plusieurs manières de voir la réalité. Et la manière dont vous allez voir la réalité, vous allez vous représenter, vous allez voir l'avenir, votre regard va déterminer la manière dont vous allez vous emparer de ces promesses. Donc dire « Seigneur, mais aide-moi à regarder la réalité avec tes yeux et à faire confiance que tu es ma sécurité pour pouvoir s'emparer de ces promesses et de l'avenir. » Alors, ce qui se passe ensuite, c'est que toute la nuit, là je reprends le texte biblique, les Israélites crièrent et pleurèrent. Ils protestaient contre Moïse et Aaron en leur disant « Ah, si seulement nous étions morts en Égypte !» ou dans le désert, vous voyez, ils veulent revenir à l'esclavage, parce que la liberté est beaucoup plus difficile que l'esclavage. Bien plus facile pour moi d'être esclave de tout ce qui m'entoure et de tout ce qui m'habite, plutôt que de rentrer dans la liberté que Jésus me promet. Bien plus facile, et combien de fois on veut revenir en arrière? Mais vous, les trois trios là, allez de l'avant, gagnez votre liberté. Liberté de faire des choix et de les assumer. Pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans un tel pays? Et voilà, on remet la faute sur l'Éternel. Nous y mourrons dans les combats, nos femmes et nos enfants feront partie du butin des vainqueurs. Là, ils sont en train de carrément construire leur projet de malheur. Ne vaudrait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte, retourner à ce qu'on connaît, même si c'est sous les coups et l'esclavage? Et ils se dirent les uns aux autres, parce qu'évidemment il y a des rumeurs qui circulent et on se décourage parmi, bien sûr, c'est pour ça que c'est important de bien choisir ses amis, nommons un chef et retournons en Égypte. Et Moïse va leur dire, mais le pays que nous avons exploré au Caleb est un excellent pays qui regorge de lait et de miel. Et il réaffirme ce qu'a dit l'Éternel. Si le Seigneur nous est favorable, il nous conduira dans ce pays et nous le donnera. Il réaffirme sa confiance, mais ça va pas suffire au peuple pour être rassuré. Seulement ne vous révoltez pas contre le Seigneur et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. En effet, leurs dieux protecteurs les ont abandonnés, tandis que le Seigneur est avec nous. Ne les craignez donc pas. Le Seigneur est avec vous, ne craignez pas ce qui vient devant. Voilà, c'est pas si simple de s'emparer des bénédictions de Dieu. Et je dirais que, voilà, vous pouvez lire la suite de ce texte et vous remarquerez que, alors qu'ils étaient à la porte du pays, les Israélites vont errer 40 années dans le désert et aucun de ce peuple va pouvoir profiter de cette bénédiction alors qu'elle leur avait été destinée. Il y a quelque chose de terrible, là-dedans. Et il y a quelque chose qui nous appelle aujourd'hui, et j'aimerais juste faire une toute petite synthèse avant de prier avec vous, qui nous appelle à nous souvenir des promesses de l'Éternel, à de faire de nos rêves ou des rêves de Dieu un projet qui est un projet concret. Et comme nous sommes aux portes de ces projets, de oser se lancer, oser faire ce prochain pas, oser la liberté. Et si la peur vient par rapport à des projets qui sont peut-être les vôtres, oser aussi mettre notre confiance en l'Éternel et trouver les bons moyens de se rassurer et de traiter cette peur qui nous habite. Et j'aimerais finir par ces trois verbes en disant comme Caleb, mais allons-y, emparons-nous de ce pays promis et nous en sommes capables par la force de l'Éternel. Donc voilà, c'est l'encouragement que je voulais vous donner spécialement à vous pour votre vie future d'adulte. J'aimerais prier avec vous pour conclure ce petit mot d'encouragement. Merci Seigneur pour le Dieu de bénédiction que tu es, car des bonnes choses sont devant nous, des choses, c'est vrai, dont on pourra jouir dans cette vie, mais en tout cas certainement dans la vie avec toi. Mais ici-bas, tu nous encourages à aller jour après jour, un pas après l'autre, de gagner en liberté, liberté d'être tes enfants, fils ou filles du Dieu Tout-Puissant, liberté de faire des choix et de les assumer, la liberté d'aimer. Et nous avons envie, en tout cas j'ai envie et nous avons besoin de gagner en liberté cette liberté-là à laquelle tu nous appelles Jésus. Seigneur, je te prie que ça puisse ce matin soit encouragé, chacun dans nos situations de vie qui sont tellement différentes, mais juste à te faire confiance et faire ce prochain pas avec toi, à nous emparer de ces promesses que tu nous donnes, à nous emparer de cette vie qui est devant nous, telle qu'elle soit, et à faire face à ces géants et à ces difficultés, pas simplement avec nos petits et faibles moyens, mais en comptant sur ta grâce, sur ta force. Seigneur, si la peur parfois nous tenaille, elle a certainement quelque chose à nous dire, nous voulons nous rappeler que tu es un Dieu qui est avec nous, comme l'on l'a chanté, et pas contre nous, et que dans chaque circonstance de vie, tu es là, Jésus. Seigneur, je te prie pour que tu nous donnes le courage de la liberté. Et c'est par ta grâce et dans le nom de Jésus-Christ que nous prions ce matin. Amen. Du coup, mon iPhone ne m'a pas vraiment beaucoup servi.
Merci Christophe, merci.